Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le vice-président indonésien a discuté la gestion du terrorisme à l'ASEM. Le sommet de la commémoration du jour national des enfants 2016 souligne la violence. BKPM prépare le schéma d'investissement de l'amnistie fiscale. Un économiste a dit à la fin d'année, l'économie indonésienne va croître 5,0%. Le premier semestre 2016, les exportations de Java S augmentent 8,53%. Et enfin, les Chinois sont la majorité des étrangers expulsés de Nusa Tenggara West. Voici le journal complet. Le vice-président Yusuf Kalla a souligné l'importance de la gestion du problème du terrorisme et sa cause. C'est ce qu'a affirmé Yusuf Kalla lors d'assister au 11e sommet Asie-Europe ASEM à Ulaanbaatar en Mongolie, comme cité de la page officielle WordPress.free dimanche. La déclaration du vice-président a reçu le soutien d'un certain nombre de dirigeants d'épée de l'ASEM. En outre, Yusuf Kalla a également déclaré que l'action de terrorisme avait été élargie à partir d'un état d'échec aux pays qui sont plus stables. Donc, il a souligné la nécessité d'une coopération de la reconstruction du développement politique, économique et social pour lutter contre les causes profondes du terrorisme dans des pays échoués. À cette occasion, les dirigeants de l'Asie-Europe ont également exprimé leurs préoccupations et ont condamné sévèrement les attentats terroristes dans diverses parties du monde à la suite de la tragédie qui a eu lieu à Nice, en France, le 15 juillet dernier. Les dirigeants d'Asie-Europe ont également convenu de renforcer la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme et la solution juridique contre les auteurs de terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies et du droit international. La ville Mataram, Nusa Tenggara West, devient l'hôte du sommet de la commémoration du jour national des enfants 2016, le 23 juillet 2016. Cet événement sera suivi par le président Joko Widodo et son épouse, Iryana Joko Widodo, le secrétaire du ministère de l'autonomisation des femmes et de protection de l'enfant, Wahyu Hartomo, dans une conférence de presse à son bureau à Jakarta le samedi, a déclaré que Joko Widodo veut le sommet du jour national des enfants ne soit pas centralisé à Jakarta, mais réparti dans les régions d'Indonésie. Le thème du jour national des enfants 2016 est « Fin de la violence chez les enfants ». Le thème est examiné en fonction de l'état actuel des enfants, victimes de violences physiques des adultes, la violence sexuelle et les drogues qui ont frappé les enfants. La commémoration du jour national des enfants et les efforts du pays pour garantir le respect des droits de l'enfant sur les droits à la vie, la croissance et le développement et de participer équitablement conformément à la dignité humaine, ainsi que la protection contre la violence et discrimination. Wahyu a dit, le président ne va pas faire un discours, mais il prendra les enfants à bavarder avec des envoltures. Il y a 3000 enfants à partir de diverses régions éloignées du pays pour assister à l'événement principal de la Journée nationale des enfants 2016. La politique du gouvernement à mettre en œuvre la politique d'amnistie fiscale a été répondue activement par divers ministères et organismes concernés de formuler des règlements soutenants. Le Conseil de la coordination des investissements, BKPM, prépare actuellement le schéma d'investissement pour les participants d'amnistie fiscale. Le chef de BKPM, Franky Sibarani, a affirmé que l'amnistie fiscale est fournie par le gouvernement vise à accélérer la croissance et la restructuration économique par l'intermédiaire du transfert de trésors. Cette politique aura un impact sur l'augmentation de la liquidité antérieure, l'amélioration du taux de change de roupia, la diminution du taux d'intérêt et l'augmentation des investissements. Selon Franky Sibarani, le schéma préparé contiendra des informations sur la procédure et la facilité acquises par les participants d'amnistie fiscale qui choisissent d'investir en Indonésie. La Banque d'Indonésie prévoit que la politique d'amnistie fiscale peut encourager la croissance économique en Indonésie à 5,3%. Tandis que sans l'amnistie fiscale, la croissance économique est seulement dans la limite inférieure de 5,04%. Un économiste de la Banque Permata, Joshua Pardede, a déclaré lundi à Jakarta, la croissance économique d'Indonésie est estimée à environ 5,0%. Néanmoins, il est d'accord que l'amnistie fiscale a le potentiel d'encourager la croissance économique à moyen terme, à long terme, car l'amnistie fiscale encouragera le rapatriement des fonds qui avaient été mis à l'étranger. Joshua a expliqué, cela dépend aussi du type d'investissement pour accueillir le rapatriement des fonds. Si le rapatriement des fonds a été placé sur la propriété ou des usines et d'autres secteurs qu'il, il a estimé que cela encouragera la croissance des investissements. Et finalement, il peut se déplacer le secteur qu'il, la fabrication et la croissance économique nationale. L'Agence centrale de la statistique a enregistré une augmentation de la valeur des exportations de Javaès à atteint 8,53% dans le premier semestre 2016. Le directeur de l'Agence centrale de la statistique de la province de Javaès, Teguh Pramono, a déclaré la valeur des exportations de Javaès en janvier à juin 2016 a atteint 10,18 milliards dollars américains ou a augmenté 8,53% par rapport à la même période de l'année dernière d'un montant de 9,38 milliards dollars américains. Teguh Pramono a expliqué, le groupe DBU est toujours les principaux produits d'exportation de Javaès dans le premier semestre cette année. Sa valeur des exportations de janvier au juin 2016 a atteint 3,01 milliards dollars américains. Ce chiffre a augmenté 36,32% par rapport à la même période de l'année précédente, qui a atteint 2,21 milliards dollars américains. Le Bureau d'immigration de Mataram, Nusa Tenggara Ouest, a déporté plusieurs 60 étrangers pendant janvier au juillet 2016, dont la majorité provenant de la Chine. Le chef de la section de la supervision et l'exécution du Bureau de l'immigration de Mataram, R. Agung Wibowo, a déclaré dimanche à Mataram que de 60 ressortissants étrangers qui ont été déportés, autant que 39 personnes sont venues de la Chine. Il a expliqué de 39 citoyens chinois qui ont été déportés, 36 ont été arrêtés alors qu'ils travaillaient à la centrale en vapeur Sambelia à Lombok-Est. Cependant, 3 autres citoyens chinois ont été arrêtés dans la zone touristique de Sekotong, Lombok-Ouest, et la zone touristique Mandalika Resort, Lombok-Central. Selon Agung Wibowo, tous les travailleurs chinois avaient violé l'article 75, paragraphe 1 et 2 de la loi numéro 6/2011 sur immigration. L'a ajouté, le bureau d'immigration de Mataram améliore la surveillance des étrangers, en particulier après la communauté économique de l'ASEAN et la mise en valide du règlement sans visa pour 169 pays. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
La campagne pour conduire les enfants à la première journée de l'école. Chers auditeurs, la plupart des écoles indonésiennes ont commencé la nouvelle année académique 2016-2017 aujourd'hui, le lundi 18 juillet 2016. En envisageant de la nouvelle année scolaire, les élèves, en particulier au niveau de la maternelle et de l'école primaire, non seulement exigent la préparation physique, comme préparer les nouveaux uniformes scolaires et de l'équipement, mais aussi la préparation mentale. Les nouveaux étudiants ont besoin de préparation mentale en faisant face à l'environnement de la nouvelle école, nouveaux enseignants et de nouveaux amis. Ceci est où le rôle des parents est nécessaire pour soutenir à préparer mentalement les étudiants ou les élèves à étudier dans leurs nouvelles écoles. À cet effet, le ministre de l'Éducation et de la Culture, M. Anies Baswedan, a publié la circulaire numéro 4 du ministre de l'Éducation et de la Culture, publiée le 11 juillet 2016, sur le premier jour de l'école, qui contient un appel à l'appareil d'état civil pour conduire les enfants à l'école pour le premier jour de l'école. Dans cette lettre, le ministre de l'Éducation a également demandé aux gouverneurs, régions et maires pour donner une dispense à l'appareil d'état civil à déposer leurs enfants le premier jour de la nouvelle école. Ministre Anies Baswedan a également souhaité des entreprises privées de donner une dispense à leurs employés pour la même chose. Même ministre Anies a émis une demande écrite au ministre de la Réforme administrative et de la Réforme bureaucratique pour donner la dispense pour la ASN d'être capable de conduire les enfants à l'école pour le premier jour de la nouvelle année scolaire. L'appel du ministre de l'Éducation et de la Culture a reçu une réponse positive de la part du ministre de la Réforme administrative et de la Réforme bureaucratique, qui permet l'appareil état civil, militaire et de la police pour livrer leurs enfants dans le premier jour de l'école avant d'entrer dans le bureau. Cependant, ministre de la Réforme administrative et de la Réforme bureaucratique, Yudi Krisnandi a averti de ne pas voler de temps lors de la livraison d'un enfant sur le premier jour d'école. Ministre Yudi demande que l'activité d'accompagner les enfants à l'école ne dérange pas le service public. Accompagner les enfants aux écoles ne se contente pas seulement de le prendre de la maison de l'école. À l'école, les parents doivent encourager les enfants à faire de nouveaux amis. Enseigner aux enfants de saluer, y compris avec l'enseignant. En outre, les parents peuvent également rencontrer les enseignants et d'autres parents. Alors qu'il existe une interaction mutuelle et la communication avec les parents et les éducateurs. Prenez les enfants de la première jour de l'école ne veut pas dire les parents gâtent l'enfant. Précisément, les parents peuvent favoriser et développer le potentiel des enfants. Au moment où l'enfant est maladroit avec son nouvel environnement, les parents peuvent fournir un soutien et d'encouragement pour ses enfants afin qu'ils soient préparés pour le nouvel environnement. Chers juridiques auditeurs de la Voix de l'Indonésie, c'était le commentaire.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui. Et maintenant, nous commençons avec 18 juillet 1925. Adolf Hitler a publié un livre sur son manifeste politique Mein Kampf. En 1923, le parti nazi dirigé par Adolf Hitler a essayer de prendre le pouvoir du dirigeant de la République de Weimar, le nom de l'Allemagne à l'époque, dans un événement connu sous le nom de Beerhallputz. Une telle tentative a échoué et a causé Hitler aller en prison. Pendant 9 mois dans la prison, Hitler a écrit Mein Kampf, soit mon combat. Ce livre est une autobiographie que contient le manifeste politique d'Adolf Hitler. Dans ce livre, le décrit se fut sur l'avenir de l'Allemagne. Il a également décrit ses plans sur le futur pour les Juifs. Le 18 juillet 1925, Adolf Hitler a publié le premier volume du livre « Mon combat » qui est finalement devenu le livre du parti nazi allemand. Quand il est arrivé au pouvoir en 1933, il incarne une certaine du contenu du livre. Le livre est disponible dans les bureaux de civil pendant la règne des nazis en Allemagne. Ensuite, le 18 juillet 1936, la guerre civile en Espagne a éclaté entre le groupe de droite contre le gouvernement socialiste. La guerre s'était commencée après que le général Franco a appelé tout de l'armée espagnole à se joindre pour renverser le gouvernement de l'Espagne à cette époque. L'Allemagne et l'Italie ont appuyé le Franco avec des avions, des chars et des armes, tandis que l'Union soviétique a soutenu le gouvernement et le groupe socialiste. En janvier 1939, le capitaliste de l'Espagne, Barcelone, a réussi d'être capturé par les forces rebelles et peu après toute l'Espagne est tombé dans leurs mains. Le 28 mars 1939, la guerre a pris fin avec la remise de côté du gouvernement, qui est également connu comme un républicain. Cette guerre a sacrifié plus d'un million de vies et le général Franco a gouverné à l'Espagne avec une main de fer jusqu'à sa mort en 1975. Nous terminons avec le 18 juillet 1974. On a établi l'entreprise publique de développement de logement national. L'entreprise publique de développement de logement national, ou Perum Perumnas, est une entreprise appartenant de l'État indonésien travaillant dans le domaine du logement et des établissements. Perum Perumnas a établi comme une solution du gouvernement de fournir un logement convenable pour la communauté de milieu vers le bas. La société a été fondée sur la base du règlement du gouvernement numéro 29 à l'an 1974. La société a été fondée sur la base du règlement du gouvernement numéro 29 à l'an 1974, modifié par le règlement du gouvernement numéro 12 à l'an 1988 et affiné par le règlement gouvernemental numéro 15 à l'an 2004. En date du 10 mai 2004. Depuis sa fondation en 1974, Perum Perumnas apparaît et agit toujours comme un pionnier dans la fourniture de logements et de maisons pour les communautés ayant le revenu au milieu à faible. Grâce au concept de développement à grande échelle, Perum Perumnas a réussi à apporter une contribution significative est à la formation de la zone résidentielle et les nouvelles villes qui se propagent dans toute l'Indonésie. Chers auditeurs et auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la mise au point avec le thème « La nécessité de renforcement intersectoriel des renseignements pour superviser l'État unitaire de la République d'Indonésie contre toute l'ingérence qui pourrait nuire à la stabilité nationale. » L'environnement stratégique du développement mondial exige une surveillance continuelle d'un pays avec des données adéquates d'analyse du renseignement. Le développement des menaces réelles comme les actes de terrorisme ne peut plus être nié parce qu'en réalité, la menace continue de montrer le mouvement massif remarquable et se propager dans presque toutes les parties du monde, à la fois les pays développés et les pays en développement, y compris l'Indonésie. C'est ce qu'a affirmé le commandant en chef des forces armées indonésiennes, TNI, le général de TNI Gatot Nurmantio, au quartier général de TNI à Cilangkap, Jakarta, cité par l'agence de nouvelles Antara. Selon lui, pour observer l'état actuel du renseignement national indonésien, on nécessite encore une augmentation de la qualité qui peut fournir des garanties pour la sécurité du pays. Le commandant en chef de TNI a révélé que l'avenir, il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre, à observer et à traiter avec des stratégies de renseignement. Le général Gatot Nurmantio a rappelé que le renforcement de la capacité de renseignement militaire doit être exposé dans les différents principes, à la fois la stratégie, la tactique et opérationnelle pour les besoins politiques, économiques, sociaux, culturels, militaires et de la défense. Le commandant en chef de TNI a réitéré qu'afin de répondre aux défis de l'environnement stratégique, on nécessite l'optimalisation de solidité et de synergie, ainsi de jeter plus loin l'ego sectoriel à la communauté de renseignement de TNI. En outre, il a affirmé que les crimes transnationaux, la piraterie, l'otage, les détournements, l'enlèvement de personnes à travers le pays, le séparatisme, le radicalisme, surtout indique comment la menace à la communauté, à la nation et à l'État. La menace envisagée par l'Indonésie, selon Gatot, est le taux élevé de trafic de drogue qui a pénétré dans le village, qui pourrait être l'horreur et la tragédie de la génération de nations, car il va détruire les êtres humains et la civilisation. Donc, pour contrecarrer cette menace, c'est important de renforcer les renseignements. Comme tenu jusqu'à présent, l'Indonésie reste encore à faire les renforcements des capacités de renseignement de TNI significativement. Pendant ce temps, concernant la synergie des renseignements intersectoriels pour répondre aux défis environnementaux de stratégie, auparavant, le ministère de la Défense a le projet de créer le renseignement de défense. Le ministre de la Défense, Ria Mizat Riakudu, comme cité par CNN de l'Indonésie, a déclaré la nécessité d'une agence de renseignement de défense comme partie de la structure organisationnelle à son institution. Selon Ria Mizat Riakudu, l'Indonésie est le seul pays qui n'a pas d'agence de renseignement de défense. L'idée de la mise en place de l'intelligence de défense, selon le ministère de défense, est liée à des changements après la réforme où le ministère de la défense est séparé avec TNI. Ria Mizat a également dit que l'idée de cet établissement est également très pertinente avec le défi et la situation réelle de l'Indonésie aujourd'hui. L'agence de renseignement de la défense va devenir une nouvelle forme de l'agence pour les installations stratégiques nationales ou Bainstranas du ministère de la défense. Selon l'article 140A dans le décret présidentiel numéro 80 année 2014, l'agence pour les installations stratégiques nationales a une tâche d'effectuer la gestion de la zone des installations stratégiques nationales. Le chef de Bainstranas, le général de division Parianto, a déclaré que l'agence de renseignement de défense est importante à former pour prévoir et formuler les formes de menaces qui est sous-jacente à la stratégie de défense nationale. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir. Le vice-président Youssouf Kalla a souligné l'importance de la gestion du problème du terrorisme et sa cause. C'est ce qu'a affirmé Youssouf Kalla lors d'assister au 11e sommet Asie-Europe ASEM à Ulaanbaatar en Mongolie, comme cité de la page officielle WordPress.fr dimanche. La déclaration du vice-président a reçu le soutien d'un certain nombre de dirigeants d'épée de l'ASEM. En outre, Youssouf Kalla a également déclaré que l'action de terrorisme avait été élargie à partir d'un état d'échec aux pays qui sont plus stables. Donc, il a souligné la nécessité d'une coopération de la reconstruction du développement politique, économique et social pour lutter contre les causes profondes du terrorisme dans des pays échoués. À cette occasion, les dirigeants de l'Asie-Europe ont également exprimé leurs préoccupations et ont condamné sévèrement les attentats terroristes dans diverses parties du monde à la suite de la tragédie qui a eu lieu à Nice, en France, le 15 juillet dernier. Les dirigeants d'Asie-Europe ont également convenu de renforcer la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme et la solution juridique contre les auteurs de terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies et du droit international. La ville Mataram, Nusa Tenggara West, devient l'hôte du sommet de la commémoration du Jour national des enfants 2016, le 23 juillet 2016. Cet événement sera suivi par le président Joko Widodo et son épouse, Iriana Joko Widodo, la secrétaire du ministère de l'autonomisation des femmes et de protection de l'enfant, Wahyu Hartomo, dans une conférence de presse à son bureau à Jakarta le samedi, a déclaré que Joko Widodo veut le sommet du Jour national des enfants ne soit pas centralisé à Jakarta, mais réparti dans les régions d'Indonésie. Le thème du Jour national des enfants 2016 est « Fin de la violence chez les enfants ». Le thème est examiné en fonction de l'état actuel des enfants, victimes de violences physiques des adultes, la violence sexuelle et les drogues qui ont frappé les enfants. La commémoration du Jour national des enfants et les efforts du pays pour garantir le respect des droits de l'enfant sur les droits à la vie, la croissance et le développement et de participer équitablement conformément à la dignité humaine, ainsi que la protection contre la violence et discrimination. Wahyu a dit, le président ne va pas faire un discours, mais il prendra les enfants à bavarder avec des envoltures. Il y a 3000 enfants à partir de diverses régions éloignées du pays pour assister à l'événement principal de la Journée nationale des enfants 2016. La politique du gouvernement à mettre en œuvre la politique d'amnistie fiscale a été répondue activement par divers ministères et organismes concernés de formuler des règlements soutenants. Le Conseil de la coordination des investissements, BKPM, prépare actuellement le schéma d'investissement pour les participants d'amnistie fiscale. Le chef de BKPM, Franky Sibarani, a affirmé que l'amnistie fiscale est fournie par le gouvernement vise à accélérer la croissance et la restructuration économique par l'intermédiaire du transfert de trésors. Cette politique aura un impact sur l'augmentation de la liquidité antérieure, l'amélioration du taux de change de roupia, la diminution du taux d'intérêt et l'augmentation des investissements. Selon Franky Sibarani, le schéma préparé contiendra des informations sur la procédure et la facilité acquises par les participants d'amnistie fiscale qui choisissent d'investir en Indonésie. La Banque d'Indonésie prévoit que la politique d'amnistie fiscale peut encourager la croissance économique en Indonésie à 5,3%. Tandis que sans l'amnistie fiscale, la croissance économique est seulement dans la limite inférieure de 5,04%. Un économiste de la Banque Permata, Joshua Pardede, a déclaré lundi à Jakarta, la croissance économique d'Indonésie est estimée à environ 5,0%. Néanmoins, il est d'accord que l'amnistie fiscale a le potentiel d'encourager la croissance économique à moyen terme, à long terme, car l'amnistie fiscale encouragera le rapatriement des fonds qui avaient été mis à l'étranger. Joshua a expliqué, cela dépend aussi du type d'investissement pour accueillir le rapatriement des fonds. Si le rapatriement des fonds a été placé sur la propriété ou des usines et d'autres secteurs qu'il, il a estimé que cela encouragera la croissance des investissements. Et finalement, il peut se déplacer le secteur HIL, la fabrication et la croissance économique nationale. L'Agence centrale de la statistique a enregistré une augmentation de la valeur des exportations de Java East à atteint 8,53% dans le premier semestre 2016. Le directeur de l'Agence centrale de la statistique de la province de Java East, Teguh Pramono, a déclaré la valeur des exportations de Java East en janvier à juin 2016 a atteint 10,18 milliards dollars américains ou a augmenté 8,53% par rapport à la même période de l'année dernière d'un montant de 9,38 milliards dollars américains. Teguh Pramono a expliqué, le groupe DBU est toujours les principaux produits d'exportation de Java East dans le premier semestre cette année. Sa valeur des exportations de janvier au juin 2016 a atteint 3,01 milliards dollars américains. Ce chiffre a augmenté 36,32% par rapport à la même période de l'année précédente, qui a atteint 2,21 milliards dollars américains. Le Bureau d'immigration de Mataram, Nusa Tenggara West, a déporté plusieurs 60 étrangers pendant janvier au juillet 2016, dont la majorité provenant de la Chine. Le chef de la section de la supervision et l'exécution du Bureau de l'immigration de Mataram, R. Agung Wibowo, a déclaré dimanche à Mataram que de 60 ressortissants étrangers qui ont été déportés, autant que 39 personnes sont venues de la Chine. Il a expliqué de 39 citoyens chinois qui ont été déportés, 36 ont été arrêtés alors qu'ils travaillaient à la centrale en vapeur Sambelia à Lombok-Est. Cependant, 3 autres citoyens chinois ont été arrêtés dans la zone touristique de Sekotong, Lombok-Ouest, et la zone touristique Mandalika Resort, Lombok Central. Selon Agung Wibowo, tous les travailleurs chinois avaient violé l'article 75, paragraphe 1 et 2 de la loi numéro 6/2011 sur immigration. L'a ajouté, le bureau d'immigration de Mataram améliore la surveillance des étrangers, en particulier après la communauté économique de l'ASEAN et la mise en valide du règlement sans visa pour 169 pays. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous présentons un pays haute-soudénoise. Alors, soyez toujours avec nous. Vous pouvez suivre les émissions de la Voix d'Indonésie, le service international de RRI, soit sur ondes courtes, soit vous pouvez nous écouter sur www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Chers auditeurs, vous pouvez trouver le charme du pays haute-soudénoise au village de Lolai, le district de Kapalapitu, la résidence du nord de Toraja, Sulawesi du Nord. À partir d'une page sur laquelle il a construit la ligne des maisons traditionnelles de Toraja, appelée Tongkonan Lempe, les visiteurs peuvent voir une vue de l'étendue de résidences et les maisons traditionnelles Tongkonan qui sont cachées derrière les nuages et le sommet de montagne qui apparaît parmi les nuages. Le centre d'affaires de Rantepau, la capitale du nord de Toraja, est visible à une distance à partir de la zone à une altitude au-dessous du niveau de la mer. Le meilleur moment pour visiter le village Lolai est le matin, afin que vous puissiez profiter de la beauté du lever de soleil tout en profitant du café de Toraja servi par le propriétaire de Tongkonan, où vous pouvez venir la nuit pour passer la nuit. Pour ceux qui veulent passer la nuit, les propriétaires peuvent louer Tongkonan comme homestay. Il y a aussi des tentes avec des taux de location à bas prix. Attendre le lever du soleil est une sensation incroyable. Lorsqu'on regarde l'étendue des nuages qui se lèvent lentement de la partie continentale inférieure à Lolai, dans certains moments, même les visiteurs sont comme marchés sur un nuage, parce que les superpositions de nuages sont alignées avec votre position de debout dans Tongkonan Lempe. Chers auditeurs, de Rantepau, capitale du nord de Toraja, le village Lolai est situé à 20 km et peut être atteint environ 30 minutes. Le gestionnaire, qui est également le propriétaire de Tongkonan Lempe, suffit de tirer les frais de stationnement auto volontaire. En plus de profiter de la vue du lever du soleil et coucher du soleil, vous pouvez également faire le parachutisme. Toraja est convenable de visiter parce que le paysage magnifique est combiné avec la culture et les traditions qui sont toujours maintenues. Chères auditrices et chers auditeurs, c'est le magazine culturel pour ce soir avec le titre « En paix au-dessous des nuages au village Lolaï ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission de ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Le sujet pour aujourd'hui est Sakit sudah hari raya lebaran ou en français être malade après l'Eid al-Fitr. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Sakit, sakit, en français, être malade. Se sudah, en français, après. Hari Raya Lebaran, Hari Raya Lebaran, en français, l'Eid al-Fitr. Mengantuk, mengantuk, en français, avoir sommeil. Tidak enak badan, en français, ne pas se sentir bien. Batuk, batuk, en français, toux. Sepanjang malam, en français, toute la nuit. Tidur nyenyak, en français, bien dormir. Demam, demam, en français, vivre. Diarrhée, diarrhée, en français, diarrhée. Makan, makan, en français, manger. Terlalu pedas, en français, trop épicé. Satu bulan, en français, un mois. Berpuasa, berpuasa, en français, jeûner. Sehat, sehat, en français, en bonne santé. Makan sembarangan, en français, manger sans discernement. Makanan bersantan, en français, alimentation ayant le lait de coco. Minum, minum, en français, boire. Soda, soda, en français, soda. Es, es, en français, glace. Lelah, lelah, en français, fatigué. Pembantu, pembantu, en français, femme de chambre. Ensuite, je vais donner l'exemple de conversation ayant pour titre Sakit sudah hari raya lebaran ou en français, être malade après l'Eid al-Fitr. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. Cette conversation est entre Anna A et Nita B au bureau. A. Mengapa kamu kelihatan mengantuk? Mengapa kamu kelihatan mengantuk? En français. Pourquoi avez-vous l'air de sommeil? B. Saya sedang tidak enak badan. saya sedang tidak enak badan. En français, je ne me sens pas bien. B. Saya batuk sepanjang malam. Saya batuk sepanjang malam. En français, je toussais toute la nuit. B. Saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya tidak bisa tidur nyenyak. En français, je ne peux pas bien dormir. A. Saya juga demam. Saya juga demam. En français, j'ai la fièvre aussi. A. Selain itu, saya diare. Selain itu, saya diare. En français, en plus, j'ai le diarrhée. B. Mungkin kamu makan terlalu pedas. Mungkin kamu makan terlalu pedas. En français, peut-être vous mangez trop épicé. B. Satu bulan berpuasa, kita merasa sehat. Satu bulan berpuasa, kita merasa sehat. En français, en mois de jeûne, nous nous sentons en bonne santé. B. Pada waktu hari raya lebaran, kita makan sembarangan. Pada waktu hari raya lebaran, kita makan sembarangan. En français, au moment de la fête de l'Aide, nous mangeons sans discernement. A. Betul, kita terlalu banyak makan makanan yang bersantan. Betul, kita terlalu banyak makan makanan yang bersantan. En français, oui, nous mangeons trop d'alimentation ayant le lait de coco. A. Kita minum soda dan es. Kita minum soda dan es. En français, nous avons bu de la soda et de la glace. B. Selain itu, pada waktu berpuasa, kita mungkin kurang tidur. Selain itu, pada waktu berpuasa, kita mungkin kurang tidur. En français, en plus du temps de jeûne, nous manquons probablement de dormir. B. Pada waktu lebaran, terlalu banyak makan dan terlalu lelah. Pada waktu lebaran, terlalu banyak makan dan terlalu lelah. En français, au moment de l'aide, trop de manger et trop fatigué. B. Selain itu, mungkin tidak ada pembantu. Selain itu, mungkin tidak ada pembantu. En français, en outre, peut-être il n'y a pas de femme de chambre. A. Betul, minggu depan saya akan berpuasa lagi. Betul, minggu depan saya akan berpuasa lagi. En français, oui, la semaine prochaine, je vais jeûner à nouveau. Bon, chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique utile pour vous. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers fidèles amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, voici le magazine de musique édition de lundi avec le rythme de Kroncong. Et pour ce soir, avec le maestro de Kroncong, Gesang. Bon, pour animer notre rencontre ce soir, allez écouter la première chanson de Gesang. Au rythme de Kroncong, intitulé Bengawan Solo. Bon écoute.
Bengawan Solo hati, perhatian Enshadi. Musim kemarau, tak berapa airmu, di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo berkurung gunung seribu, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke
Chefi Lazami ong di kelenong de gesang e garanti pour le rythme de keroncong. De plus sa sangsong, bengawan solo, a ete tradui dang 13 langues étrangères. Même au Japon, cette sangsong est comme le soundtrack du film. Le nom de gesang est si populaire, si bien que la communauté japonaise a donné la subvention à la fondation de gesang. Vous avez, depuis sa petite, Gesang aime la musique et aux années 20, il s'intéresse au rythme de keroncong. Chers amis, écoutez encore la chanson de rythme keroncong avec Gesang intitulée Jembatan Merah. Bonne écoute.
Jembatan merah sungguh gagah, berpagar gedung indah, sepanjang hari yang melintasi hilir berganti
saat dipatah, ingat zaman berpisah, kekasih pergi sehingga kini belum kembali. Biar jembatan merah andainya patah, aku pun bersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu lagi. Jembatan merah andainya patah, aku pun bersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu lagi.
Selfie Dozami Beaucoup d'œuvres de Gessin qui sont légendaires au rythme de keroncong, surtout Bengawan Solo. Cette chanson raconte la grande scène dans l'île de Java. Grâce à cette chanson, le nom de Java et l'Indonésie est de plus en plus connu dans le monde. Chers amis, c'était le magazine de musique avec le grand musicien Gessin. Et avant de terminer notre rencontre, écoutez encore deux dernières chansons intitulées Sapu Tangan et Kemayoran. Bonne écoute et au revoir.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta, 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.